RCF.
Alors que la vigne devrait être symbole de fête, de partage des fruits et de joie commune, la vendange dont parle Jésus dans la parabole de ce dimanche est mêlée d'amertume, de coups et de sang. Jésus est monté à Jérusalem pour donner sa vie jusqu'au bout, il n'a plus rien à perdre, et il veut croire qu'il est encore temps de transformer le cœur des religieux qui s'opposent à lui. Par le biais d'une histoire, par l'image et le symbole, ils souhaitent bousculer leurs croyances de sachants arc-boutées sur leur vision d'un monde rétréci. Pour commenter cet évangile, je reçois la théologienne et anthropologue Marie-Laure Durand. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43.
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit.
Marie-Laure Durand, il faut resituer le contexte dans lequel Jésus prononce les mots que nous venons d'entendre.
Le contexte, Jésus est à Jérusalem, plus précisément au temple, et il va annoncer une série de paraboles qui vont avoir pour but d'expliciter ce qu'est le royaume de Dieu.
Ici, est-ce qu'on a affaire à une parabole ?
Alors, on a affaire à une parabole, sachant que parabole, c'est un terme grec. Donc, je préférerais qu'on emploie le terme hébreu d'usage à l'époque. C'est un machal.
Ça veut dire quoi ?
Un machal, c'est une ressemblance. Voilà, les meshalim, les machals, étaient traditionnellement commencés, étaient introduits par « à quoi la chose ressemble ». Donc l'idée d'un machal, ça fait partie de la technique du Midrash, qui est une technique juive de l'époque. Et l'idée, c'est de faire une comparaison avec une histoire, quelque chose de très concret, de très matériel, pour permettre de saisir intellectuellement une idée un peu compliquée.
Et Jésus a l'art de faire cela, puisqu'il utilise des petites histoires, très souvent. Par exemple, pour le royaume, c'est comme un homme, c'est comme une femme qui a perdu une pièce d'argent, toujours...
Exactement, en bon juif, Jésus a sûrement été éduqué avec la technique du machal, et l'utilise très bien. Alors, pour nous, c'est important de comprendre qu'un machal, c'est pas une allégorie.
Quelle est la différence ?
Dans une allégorie, chaque point de l'histoire correspond à quelque chose. Donc on a peut-être en tête l'allégorie de la caverne de Platon, où chaque élément veut dire autre chose dans un autre système. Le machal ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est important dans le machal, c'est de comprendre le point de comparaison. Mais ça ne veut pas dire que tous les éléments du texte vont devoir être expliqués, sont symboles d'autre chose.
Et dans ce texte-là, précisément, on a pu avoir cette lecture-là ?
Ben, ce texte, traditionnellement, il a souvent été interprété comme un rejet par Dieu du peuple juif. C'est-à-dire, bon, Dieu fait alliance avec le peuple juif, il envoie des prophètes, le peuple juif maltraite les prophètes. De fait, la Bible montre combien c'est difficile pour un prophète de pouvoir annoncer le royaume. Il envoie donc son fils, et le fils est tué. Voilà, ça c'est la lecture assez facile qu'on a faite très rapidement dans l'histoire, après la résurrection en fait, hein. Et après la chute de Jérusalem, après l'exil du peuple juif en Europe, etc., etc. Quand Jésus raconte ce machal, raconte cette parabole, il parle à des juifs, il parle en tant que juif, à l'intérieur de l'Alliance. Donc, pour ma part, il me semble important de plutôt lire ce machal in situ, c'est-à-dire, si on le peut, lire ce texte avec les oreilles du moment. Il est au temple, il s'adresse à des disciples, tout le monde est juif, personne ne conteste l'alliance entre le peuple juif et Dieu, mais à l'intérieur de cette alliance, il y a des dysfonctionnements, et le machal parle de ces dysfonctionnements.
Marie-Laure Durand, Matthieu nous dit que Jésus est dans le temple et il s'adresse aux prêtres et aux pharisiens dans toute la séquence de ce chapitre 21. Qui sont ces hommes ?
Alors, c'est deux catégories assez différentes du système religieux juif. Les sadducéens, ce sont plutôt des gens qui sont dans le temple et qui sont au service du temple, de la liturgie du temple, des sacrifices. Les pharisiens, eux, ce sont des personnes qui permettent une continuité religieuse dans les villages. Comme tout le monde ne peut pas aller tout le temps au temple,
à Jérusalem,
il a été instauré à peu près un siècle et demi, petit à petit, notamment au retour d'exil, il a été instauré une lecture à la synagogue, dans les villages, de la parole de Dieu. Et les pharisiens sont en charge, finalement, non seulement de cette pratique-là, mais aussi de toute la loi orale, loi à laquelle n'adhéraient pas les sadducéens.
Reparcourons avec vous cet évangile. Jésus donc s'adresse à ces religieux dont vous venez de parler et il dit « Écoutez une autre parabole » parce qu'avant il y a déjà eu une histoire. Hein. Et donc « Écoutez une autre parabole ». Il s'agit d'écouter.
Écouter avec le cœur. C'est-à-dire d'une certaine manière, la parabole parle de mon présent et de mon histoire. Alors très directement pour les disciples auxquels il s'adresse, mais nous lecteurs du XXIe siècle, l'idée c'est de lire cette parabole aujourd'hui, pour nous.
Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il donna en fermage à des vignerons cette vigne et partit en voyage. Un homme, nous dit le texte, c'est vague.
En tout cas, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il prend soin de son projet. Il plante une vigne, il la protège, il met tout en place pour que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Voilà. C'est un homme qui fait confiance aussi, puisqu'il va donner en fermage, c'est-à-dire qu'il va laisser le soin à d'autres de cultiver cette terre à laquelle il tient.
La vigne, dans la Bible, c'est un élément fondamental. C'est une réalité d'abord de l'époque, de travailler la terre, la vigne, et puis une réalité symbolique quand même.
C'est une réalité symbolique parce qu'elle apparaît au moment, j'allais dire, du déconfinement de l'arche, au moment où Noé sort, il plante une vigne. C'est la première apparition de la vigne qu'on a dans la Bible.
Et ça veut dire quoi, ça ?
En tout cas, la création redémarre. Et on va l'accompagner d'un élément essentiel, qui est le vin. Et le vin, c'est d'abord le plaisir. Quand les Juifs sanctifient, dans la Bible, vont sanctifier le jour, ils le sanctifient sur du vin. Donc le vin, c'est pas juste de la nourriture, c'est la création vue et appréciée à partir du plaisir et de la joie qu'elle peut donner.
Donc elle signifie, cette vigne, un don pour l'homme, mais pour l'homme en fait, pour l'homme dans la joie de boire ce fruit.
En tout cas, elle oriente l'humanité sur le fait que l'existence est orientée, ordonnée. Alors, on pourrait dire au plaisir. Alors dit comme ça, bien entendu, très rapidement, ça devient peut-être ingérable, mais en tout cas, pas à la souffrance, pas à la contrainte, pas d'abord à tout ça, à l'abondance, au fait de profiter de ce qui apparaît.
Alors l'homme donne la vigne à des vignerons et il part en voyage.
Bah, c'est le but de donner en fermage. Enfin, voilà, quelqu'un de logique. C'est-à-dire qu'il s'inquiète de mettre des gens au travail, que y a pas la vigne n'est pas abandonnée, et puis après, lui-même doit avoir d'autres projets en tête, et il va les poursuivre.
On pourrait penser, justement, puisque vous évoquiez la création, à ce donateur, cette création donnée, et Dieu qui se retire pour que la création tourne avec d'autres et pas seulement par lui.
Alors c'est là que c'est pas une allégorie, c'est-à-dire que c'est pas juste le propriétaire, c'est Dieu, et puis alors la terre dans ces cas-là, ce serait quoi ? C'est justement qu'il faut avoir une compréhension un peu globale du machal, c'est de dire le fond sur lequel tout ça est possible, c'est l'abondance. Une des grandes informations de ce texte, c'est que la vigne produit du fruit. Et ça, depuis Genèse 1, on le sait. La création produit du fruit. Il suffit de planter une graine et on en a 100 derrière. La création est programmée pour donner du fruit. Et toute cette histoire n'est possible, n'existe que parce que la vigne donne. La vigne donne. Il y a abondance. C'est une information majeure du texte qui nous est un peu cachée, mais il y a abondance.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Marie-Laure Durand, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle les références, Matthieu 21, versets 33 à 43. « Quand vient le temps de la vendange ?» nous dit Matthieu. « Le propriétaire de la vigne envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. » Comment vous interprétez ce passage ?
Ça se passe mal, parce que le contrat, du coup, n'est plus respecté. Alors, moi, je lis le texte dans la TOB. Dans la TOB.
La traduction écuménique de la Bible.
Voilà, où il est marqué « Il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient ». Ce qui est intéressant comme lecture, puisque ça veut dire que le propriétaire ne veut pas tout. Sinon, c'est lui qui romprait le contrat de fermage.
Donc il en veut une partie.
Il en veut une partie, ce qui est les clauses du contrat généralement. Sinon, les fermiers ne peuvent pas vivre. Et ça se passe mal parce que, d'une certaine manière, les vignerons vont rompre le contrat et ne pas rendre les fruits qui ne leur appartiennent pas.
Et alors comment comprendre cette violence ? Une violence qui grandit au fur et à mesure du texte. D'abord on frappe, on lapide, on tue.
Oui, donc dans ce texte, les fermiers vont s'accrocher à ce qui n'est pas eux. Et c'est peut-être la seconde information majeure de ce texte, et c'est ça que Jésus raconte dans cette parabole, c'est que alors que nous sommes dans une... Enfin, nous sommes, vous voyez, de suite j'interprète, mais les fermiers sont dans une position où ils doivent reconnaître le don qui leur est fait pour ensuite en rendre une partie, c'est-à-dire se décentrer par rapport au produit même de leur action et de leur travail, se décentrer parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre, qu'ils reconnaissent que la terre donne de l'abondance et que ça dépasse largement le fruit de leur travail. Ce décentrement, cette vision plus large, ils ne la font pas.
Mais parce qu'ils n'ont pas reçu le don, justement, ils ne pensent pas que c'est à eux, une partie de la vigne est à eux.
Je pense parce qu'ils surdéterminent le travail qu'ils ont fait. Ils surdéterminent l'enjeu de leur personnalité, de leur effort. Et ils se disent peut-être, ben avec tous les efforts que j'ai faits, tout le travail que j'ai donné, finalement, ces fruits sont à moi.
Alors que dans la réalité, ils en ont la gestion, une partie de la vigne, mais ils ne sont pas à l'origine de la vigne.
Ils ne sont pas à l'origine de la vigne, ils ne sont pas à l'origine du contrat. Enfin, ça me fait penser à un psaume des Montées qui dit, mais... On peut travailler en vain si Dieu ne soutient pas le projet. Et le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Donc c'est une mauvaise compréhension de leur rôle, de leur place, non seulement dans ce contrat de fermage, mais dans la création tout entière.
Jésus est donc en train de raconter une histoire aux prêtres et aux pharisiens. Le propriétaire d'une vigne a donc donné sa propriété en gérance à des vignerons, et au temps de la vendange, il refuse d'accueillir une première délégation. Et puis le texte continue. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Deuxième tentative de la part du propriétaire.
Oui, ça veut dire que ça le... Enfin, il persiste. Ils ne voient pas que la violence pourrait les alerter, en fait. Pour se dire, mais qu'est-ce qui vaut cette violence-là? Et leur logique de possessivité, de leur crispation sur le produit de la récolte, leur fait occulter que la violence est un signe qui fait que quelque chose n'est pas en place.
Il pourrait venir lui-même, le propriétaire, après tout.
Alors, il pourrait venir lui-même. Oui, effectivement. Et c'est vrai aussi dans la parabole qui suit dans le festin nuptial, où il envoie d'abord les serviteurs. Je pense que...
Pour inviter à la noce, hein, largement.
Pour inviter à la noce, effectivement. Je pense que ça devait être la coutume de l'époque, et les pratiques de l'époque, que de largement envoyer ses serviteurs avant d'y aller soi-même ou sans y aller soi-même.
Finalement, troisième tentative, l'homme, le propriétaire de la vigne, envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Donc il y a une marque de confiance quand même vis-à-vis du propriétaire qui se dit « Je ne me laisse pas démonter, je continue à essayer d'être en relation et de comprendre ces hommes ».
Alors c'est justement la mention du fils qui a souvent fait interpréter ce texte comme symbolisant la relation entre le peuple juif et Dieu, et le fils étant Jésus.
Rejeté par le peuple,
en tout cas une partie du peuple, les autorités juives. Et c'est ce mot « fils » qui, avec l'histoire qui est la nôtre, avec le recul de l'histoire qui est la nôtre, nous a fait dire « ben voilà, le fils, c'est Jésus ». En tout cas, si on reste dans le machal lui-même, dans la parabole elle-même, le fils est quelqu'un d'important pour le père. Donc, il envoie effectivement quelqu'un qui lui est cher.
Précieux.
Précieux, en se disant « ben, ils vont peut-être revenir à la raison ». Mais ça ne marche pas.
Oui, Marie-Laure Durand, ça ne marche pas puisque les hommes qui reçoivent le fils disent « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ».
Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est vraiment le signe de leur aveuglement, de leur grand aveuglement, parce que c'est pas en tuant l'héritier qu'on devient héritier soi-même. Ça se saurait. Donc, c'est une erreur logique. Ils ont beau tuer l'héritier, il y en a peut-être d'autres... Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'objectif, c'est pas d'être peut-être héritier soi-même, mais c'est de capter l'héritage. Bon, ça rend explicite que l'appât du gain, et le gain n'étant pas forcément financier. Le gain, ça peut être une posture, ça peut être un rôle, ça peut être des galons, ça peut être un statut dans la société. Tuons l'héritier, nous aurons l'héritage. Et c'est une distorsion de leur point de vue, en fait. Ils ont tellement obnubilé par ce qu'ils veulent garder, qu'ils ne comprennent même plus, que même en tuant le fils, ils n'auront pas ce qu'ils veulent.
Marie-Laure Durand, à la fin de la parabole, Jésus va interpeller directement les prêtres et les pharisiens qui l'écoutent, et il demande « Quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ses vignerons ?» Et donc la réponse des prêtres est très violente, « C'est misérable, il les fera périr misérablement, il donnera la vigne à d'autres. » Et puis Jésus poursuit et conclut « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. » Donc là, Jésus cite les Écritures.
Oui, il cite les Écritures, il cite un psaume, et c'est une façon de reprendre la parole un peu violente des pharisiens qui lui répondent, en disant finalement, l'idée ce n'est pas de remettre de la violence, ce n'est pas de réagir à la violence par de la violence. C'est-à-dire que c'est la première réaction qui serait de dire c'est misérable, il fera périr misérablement ces misérables, il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui est une façon assez violente de réagir. Jésus ne va pas prendre ce chemin-là et va dire si vous lisez l'histoire biblique, si vous lisez tout le projet tel qu'il s'est déroulé, finalement, ce qu'on rejette, c'est ce qui devient le plus important. Ce qu'on avait volontairement mis de côté, c'est ce qui devient central.
Donc la pierre qu'on avait rejetée, c'est ça ?
Qu'on avait rejetée. La pierre d'angle, c'est important, c'est la pierre la plus solide en fait. C'est la pierre non seulement la plus belle, puisqu'elle fait l'angle et qu'elle se voit des deux côtés, mais c'est la plus solide. Or Jésus nous dit, un peu d'ailleurs comme on a ça bien évidemment dans la Bible avant le Nouveau Testament, dans le livre d'Esther, il va y avoir une inversion. Quand vous lisez le livre d'Esther, c'est une série d'inversions où les gens qui étaient exclus, qui risquaient leur vie, qui étaient rejetés, reviennent au centre. Et au fond, Jésus nous dit « Attention, ces vignerons se croyaient indéboulonnables et ils se sont emparés de ce qui n'était pas à eux. Au final, ils seront mis de côté et et d'autres essaieront de vivre de cette vigne et de ce don de l'abondance de Dieu. Voilà, donc personne ne peut devenir propriétaire.
Lisons avec vous, Marie-Laure Durand, la finale de cet évangile. Jésus qui dit « Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Vous sera enlevé. » Là, Jésus nomme directement ceux qui l'écoutent.
Oui, et ceux qui le lisent, si je peux me permettre. Et ceux qui le lisent, c'est-à-dire nous, directement.
Et ça veut dire quoi, alors?
Alors, ça veut dire que le royaume, c'est un don, c'est un don.
Le royaume, c'est quoi d'abord?
Très rapidement. Il va nous falloir un peu de temps. Les mots que je mets sur royaume, c'est un espace-temps. Voilà, c'est un espace-temps. Le royaume est proche, ça veut pas dire qu'il est proche dans le temps, il est là. Il faut parfois faire un pas de côté et on est dans le royaume.
Et c'est le don, le royaume justement, c'est vivre du don, non pas comme un propriétaire, mais comme un héritier, justement.
Comme un fils. C'est le but de beaucoup de paraboles, de dire en fait, ne vous mettez pas en tant que propriétaire, mais vivez en tant que fils. Si vous vivez comme un esclave, vous ne verrez jamais le roi. Vivez comme un fils, vous verrez le père. Voilà. Et le royaume de Dieu, c'est ça. Quand Jésus parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, il est en train de nous proposer de vivre en fils ou en fille, c'est-à-dire d'avoir accès en illimité, on pourrait dire, en illimité, à l'abondance de Dieu. Et par des raisonnements tout à fait petits, on préfère être propriétaire alors qu'on a un accès illimité à Dieu qui nous est proposé, offert, seconde après seconde. Et ça, c'est le royaume de Dieu.
Marie-Laure Durand, nous avons pris le temps de lire le texte de l'évangile de ce dimanche. En quoi c'est une parole qui est bonne nouvelle pour nous aujourd'hui dans notre société du 21e siècle?
La bonne nouvelle, c'est que le fruit est illimité. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a besoin d'être propriétaire de rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire de sa maison, de sa voiture, mais ça veut dire qu'on peut en user et qu'on peut vivre sans engendrer une crispation qui amènera un jour ou l'autre à une distorsion de nos relations avec les autres. C'est ce qui se passe dans la parabole. Si on arrive à vivre de ce don sans l'arrêter, c'est-à-dire à le recevoir et à le rendre, alors on vit dans le royaume de Dieu aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la vie qui est la nôtre.
Pour l'Église, est-ce qu'il y a un message aussi à recevoir? Nos Églises?
Alors pour nos Églises, le contexte est intéressant parce qu'il est dans le temple, il va un peu vilipender les pharisiens et les sadducéens qui, on le voit tout au long du Nouveau Testament, ont tendance à se crisper sur l'Alliance et à en faire leur propriété. Pour nos églises, l'idée c'est de se dire c'est Dieu qui est en mission, c'est pas nous. Et à la limite, parce qu'on est et parce qu'on vit, on signifie l'abondance offerte par Dieu, mais en aucun cas c'est à nous de devenir les propriétaires ou les héritiers de ce don qui nous est donné. En vivre, oui. Et c'est le meilleur moyen de faire fructifier la terre qui offre encore et encore des possibilités et ce dont on a besoin.
Comment recevoir ce fameux don? Parce qu'il est très présent, hein, le don, la vigne, on en a beaucoup parlé, ce don illimité. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal finalement à l'accueillir alors qu'il est gratuit?
Je pense que si notre préoccupation c'est de faire du chiffre avec des raisins, on va passer à côté du don. Si on travaille à la terre, si on la voit pousser, c'est incroyable en fait une vigne qui pousse. C'est incroyable comment la terre produit. Je pense que c'est ce côté un peu contemplatif aussi qui nous montre qu'on n'est pas le centre, qui va nous permettre de rentrer dans une logique qui est celle du royaume. Et ça suppose effectivement de quitter une logique dans laquelle peut-être notre économie nous enferme ou nos peurs nous enferment pour s'ouvrir à ce qui pousse, tout seul et sans nous souvent.
Merci à vous, Marie-Laure Durand. Je rappelle que l'évangile de ce dimanche est à retrouver chez Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43.
Merci à vous.